Lequel de ces animaux faut-il châtrer avant de le cuire?
Disons en général ce qu'ils se mangent, je connais.
Le fameux calacouco de poisson.
Non, c'est non.
Lâchez-le, Mélique.
Oh là là là, elle a le sourire.
La pitina est née dans les alpages du Frioul il y a plus de 2 siècles et demi. Comme les paysans ne disposaient pas de boyaux, ils moulaient des saucissons en forme de boule qu'ils enrobaient de farine de polenta.
Non, c'est non.
Alors il faut quoi pour ce crumble?
Pommes framboises.
Alors des pommes, des framboises déjà.
Exactement.
Réponse, les crevettes.
Bonne réponse. Oui.
Bonjour à toutes et tous. Et oui, il y a du public aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Dans le studio 621 de la Maison de la Radio pour une émission en direct et une émission un peu spéciale. C'est le grand quiz dont on va déguster. Oui, nous allons aujourd'hui jouer ensemble pour mesurer notre QC, notre quotient culinaire, à travers des questions extraites pour la plupart d'entre elles de la boîte à quiz dont on va déguster. La boîte à quiz dont on va déguster qui vient de sortir en librairie, coéditée par Marabout et les éditions de Radio France. Imaginez une boîte à gâteaux, sauf qu'il n'y a pas de petit four dedans. Il y a 1000 questions pour tester en famille, entre amis, sa culture gastronomique. Qui va l'emporter aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que 3 chroniqueurs de la bande dont on va déguster ont accepté de prendre le risque d'être humiliés en public devant toute la France sur des sujets qu'ils sont censés bien connaître. Oui, on peut saluer leur témérité. Je vous les présente, vous les connaissez bien. Elvira Masson, Dominique Hutin, Antoine Gerbel. Bonjour à tous les trois.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Enfin, je précise qu'on n'a pas accepté, on n'a pas eu le choix.
C'est vrai.
Je tiens à le dire.
J'ai un peu forcé l'invitation, vous avez raison. Chacun d'entre vous va former un binôme avec un auditeur ou une auditrice de France Inter, avec qui on va faire connaissance dans un instant. Vous êtes là pour jouer, hein, on a bien compris. Peut-être vous la jouez aussi, hein. On va voir selon votre... Elle me regarde, elle est déjà effrayée. Elle
dira,
selon votre niveau gastronomique. Mais vous n'êtes pas venu aussi les mains vides, ça vous ressemble. Il y aura des coups de cœur à boire et à manger tout au long de cette émission. Et pour nous accompagner dans ce grand quiz dominical, nous avons également avec nous un gourmet savant, auteur de livres à succès. C'est Arthur Lequen. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez aujourd'hui être un peu en quelque sorte notre coach culinaire parce que vous avez une grande culture gastronomique, on va s'en apercevoir. Cette émission en direct est réalisée par Laurent Thomas avec Johanna Gabric à la technique, Nadia Chougui à la préparation. Et cette émission est, comme toutes les autres, écoutable, podcastable, consultable sur franceinter.fr, mais aussi depuis l'appli mobile de France Inter. Juste avant de plonger dans le grand quiz dont on va déguster, je voudrais d'abord saluer la mémoire d'un grand homme de la cuisine française.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour le côté local, pittoresque et savoureux, quelques petites gousses d'ail qu'on a fait confire dans la graisse d'oie gentiment.
Dans la famille d'André Daguin, c'est la 3e génération de mousquetaires et de grands chefs. Et il exerce ses talents à l'Hôtel de France. Et c'est un relais château aujourd'hui.
C'est un relais château, je suis très fier.
Vous êtes très fier. Puis vous avez un fils qui est cuisinier aussi.
Oui.
En Aquitaine aussi.
Oui, à Biarritz.
Tout ça, c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire?
Il y a du foie gras, il y a des huîtres, il y a des maigrets.
Pourquoi des maigrets?
Parce qu'on parle en français.
Ils sont beaux. Foie gras, alors, il est formidable.
Ah, il est exceptionnel, lui. On va en faire quelque chose d'intéressant avec ces huîtres.
Ensemble, le foie et les huîtres,
si.
Quand même.
Parce que là, il y a de l'iode et là, il y a du gras. Et l'iode va dissoudre un peu le gras, ça va être très bon.
Ne nous faites pas trop de chimie,
Mais la cuisine, c'est la chimie inconsciente.
Le chef André Daguin nous a quittés mardi dernier à l'âge de 84 ans. André Daguin, c'était 4 décennies de succès au fourneau de l'Hôtel de France, à Auch, dans le Gers, 2 étoiles au guide Michelin. Un charisme et un tempérament de feu qui l'ont emmené jusqu'à la présidence de l'UMI, l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Le New York Times lui rendait même hommage dans son édition du 3 décembre avec ce titre « André Daguin made Gascony famous ». André Daguin a rendu la Gascogne célèbre en rappelant notamment que le cuisinier gersois fut l'inventeur d'une spécialité qui a fait son entrée dans notre patrimoine gastronomique, le magret de canard grillé, je me tourne vers Arthur Lequen.
Magret, c'est le mot français, magret c'est français et magret c'est en occitan. Et en fait, c'est la langue occitane qui a gagné. Oui. Donc, on est sur du magret plutôt que sur du maigret.
Alors,
lui tenait à maigret.
Et jusqu'à la fin de ses jours, il aura dit maigret. mais il a un peu perdu ce combat, entre guillemets, puisque c'est effectivement le mot magret, originaire de magre, qui veut dire...
Viande maigre.
Voilà, qui veut dire maigre, en fait. C'était la viande maigre, mais c'est effectivement l'acception, le nom... c'est pas le nom français qui a gagné. Voilà, donc Maigret dans les Magret, pardon. On s'en mêle les pinceaux. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans le Sud-Ouest, on connaissait le canard confit, évidemment, c'est-à-dire issu d'une cuisson très longue. André Daguin a eu l'idée de mettre à la carte de son restaurant dès 1959 quand même le Magret grillé. Donc vraiment le principe d'un filet de viande découpé dans la poitrine du canard. Il en a fait une véritable viande rouge, une espèce de steak de canard. Et ça, c'était vraiment tout à fait innovant à la fin des années 50. En 1965, grand plat culte dans la gastronomie française qui a fait le tour du monde, qui a été copié dans le monde entier, le magret de canard à la sauce poivre vert, un grand plat de la nouvelle cuisine. Voilà. Et aujourd'hui, Arthur ?
Oui, en fait, il faut aussi souligner que ça a été connu par un journaliste gastronomique américain.
Absolument.
C'est lui qui en a fait l'éloge. En premier, et ensuite les consommateurs se sont rués chez lui, chez André Daguin.
C'est pour ça d'ailleurs que André Daguin bénéficia d'une grande notoriété, notamment dans les années 70, les années 80 aux États-Unis. Aujourd'hui, on pense très fort évidemment à Arnaud Daguin, le fils d'André Daguin, qui fait, comme vous le savez, partie de la bande dont on va déguster. Arnaud devait être avec nous aujourd'hui pour participer à ce grand quiz. Il n'a pas vraiment la tête à jouer aujourd'hui. Il est avec les siens à Auch, dans le recueillement. On lui envoie, à lui ainsi qu'à sa famille et à ses proches, nos pensées affectueuses.
On va déguster.
Arthur Lequen, à nous de jouer. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Vous allez même arbitrer certaines questions.
Je serai sans pitié.
Vous allez nous faire profiter de vos lumières. Alors, comment vous définir ? Vous êtes cuisinier amateur, autodidacte. Moi, je pourrais vous définir par une expression épicurieux, ça vous irait ?
Ouais, c'est bien. Ou auteur poil à gratter.
Voilà, auteur poil à gratter. Parce que dans tous vos livres de cuisine, vous stimulez nos neurones en remettant en cause certaines de nos croyances culinaires. Et c'est le cas avec ce nouveau livre intitulé « Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas ?» Il y a cette question-là à laquelle vous répondez évidemment. Mais il y a aussi 700 autres questions impertinentes et ludiques sur la cuisine. Commençons peut-être par la principale. En un mot, pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas ?
Alors en fait, les spaghettis sont des pâtes du sud de l'Italie, qui sont des pâtes sèches en général.
Oui.
Bologne est au nord, donc on est déjà presque 1000 km d'écart. Et qu'ensuite, la sauce bolognaise est une sauce épaisse qui ne tient pas du tout sur les spaghettis. Il faut des pâtes beaucoup plus épaisses qui s'enroulent sur elles-mêmes pour enfermer les morceaux de viande.
Des tagliatelles ?
Parfait.
Et en plus, bolognaise, ragoût, du côté de Bologne, quand on a ce genre de préparation longuement mijotée à base de viande, on a plutôt tendance à appeler ça un ragoût.
Oui, en fait, cette préparation vient sans doute de France et elle a sans doute été amenée par des
étudiants
français. Oui, du mot français ragoût, ragoûté. Et ce sont donc ces étudiants qui auraient apporté cette préparation de viande cuite lentement en Italie.
Qui le savait autour du plateau ? Un point pour Dominique Hutin. Allez.
Quel frimeur celui-là.
Voilà, donc vous avez compris l'esprit du livre d'Arthur Lequen, pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas, mais il y a aussi pourquoi faut-il saler les œufs brouillés et...
15 minutes avant.
15 minutes avant, absolument. Pourquoi faut-il saler l'eau des légumes ou pas, etc. Tout ça, c'était aux éditions Marabout. On va attaquer ce grand quiz. Et vous savez en plus, chers amis, que vous ne jouez pas pour du beurre. Ouais, car vous repartirez avec des cadeaux, en tout cas pour ceux qui gagnent. Oh, je parle pas des chroniqueurs. Hein. Je parle des auditeurs ou des auditrices, évidemment. Il y a notamment la boîte à quiz, évidemment, la grande encyclopédie On va déguster la France, aux éditions Marabout et Radio France. Il y a de nombreux livres offerts par les éditions de Radio France. Il y a le livre d'Arthur Lequen dédicacé. Et puis, il y a des belles choses comestibles. Il y a une tourte de Noël pour 4 de la Maison Véro, l'une des meilleures charcuteries de France. Salvira, elle est en train de faire les gros yeux. À la volaille, au foie gras, aux champignons de saison. C'est une excellente tourte qu'on aura d'ailleurs l'occasion de goûter. Et puis également, le gagnant repartira avec un grand coffret de chocolat de la maison Edouard, une excellente chocolaterie parisienne, créée en 2014 par Edwin Yansané. Voilà, ça vous va ou pas ?
Très bien.
Et le panettone, personne ne repart avec ?
Le panettone, il est pour nous. Juste pour la gourmandise. Je vous propose... D'abord, un tour de table de questions autour du thème « petite douceur ». C'est donc des questions sucrées, on fait les choses à l'envers, on commence avec le sucré. Elles sont extraites de la boîte à quiz, on va déguster. Alors comme dans le jeu des 1000 euros, hein, on les a un peu imités, on a demandé des conseils à notre ami Nicolas Stoufflet. Eh bien c'est chaque équipe à son tour et vous avez 30 secondes pour nous donner la bonne réponse. Dominique et Nathalie, êtes-vous prêts ?
Oui, tout à fait.
Nathalie, En un mot, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Dans la vie, je suis chef de projet informatique et blogueuse, gourmande de la vie, voilà.
Absolument, et vous pouvez citer d'ailleurs votre blog ?
Le blog Particules Alimentaires et le compte Instagram du même nom.
Et grosse culture gastronomique, j'imagine ? Enfin, c'est ce qu'on va vérifier.
Bah, on va voir, j'espère.
Vous êtes prêts ou pas, tous les deux ?
Moi, vous voulez pas savoir ce que je fais dans la vie.
On vous connaît tellement bien, Dominique.
Ah, cool.
Première question, attention. Quel nom de marque est communément utilisé pour désigner une crème glacée enrobée de chocolat et fixé sur un bâtonnet?
Miko.
Quel nom de marque est communément utilisé pour désigner une crème glacée enrobée, les autres ne jouent pas, enrobée de chocolat et fixée sur un bâtonnet?
Magnum.
Allez-y.
Alors, Miko ou Magnum?
Non. Bah, allez, vous avez... Mais... Et il faut vraiment arriver au terme des 30 secondes, vous leur avez coupé l'arbre sous le pied, je peux pas vous accorder le point, je peux pas vous accorder le point, je suis désolé. Non, vraiment, c'est chaque équipe qui joue à son tour, hein. Bon, ça commence par un petit zéro pointé. C'était effectivement l'Eskimo, cette invention américaine née dans les années 20, qui est arrivée en France en 1928, avec le lancement des glaces Gervais Eskimo. Elle a eu un tel succès que ce nom de marque est désormais utilisé comme un nom commun.
Donc, dites la première chose que vous avez en tête.
Voilà, c'est voilà. Antoine Gerbel qui avait soufflé la réponse, il l'avait. Ouais. Vous avez dit Miko, Magnum, etc. Mais c'était effectivement Eskimo. Elvira joue avec Xavier. Présentez-vous Xavier.
Bonjour, je suis directeur logistique et j'ai effectivement un blog et un Insta qui s'appelle Mon Panam.
Extrêmement fourni, renseigné, très fureteur, Mon Panam sur Insta. Ouais. C'est là où vous nous donnez rendez-vous. On a toujours très faim quand on va sur votre compte Instagram. Vous cuisinez aussi à la maison ?
Bien sûr.
Ouais. Et vous êtes prêt pour une question ?
Oui.
Une question petite douceur, là aussi, évidemment. Elvira joue avec Xavier. Quel gâteau individuel à base de pâte à choux doit son nom au fait qu'il se mange très vite ? Personne participe au tour. Quel gâteau individuel à base de pâte à choux doit son nom au fait qu'il se mange très vite ? Vous avez le droit de nous proposer des réponses, hein ?
Ils ont dit le magret.
Le pednon, le Paris-Brest.
Au fait qu'il se mange très vite.
Bah, un pednon, c'est rapide.
Non. Ah, pas mal.
C'était quand même ça la justification.
Indice, il est de forme allongée.
Un éclair.
Oui, un éclair, bien sûr, pardon.
Bravo, éclair. Un. Un gâteau recouvert de fondant, fourré de crème pâtissière à la vanille, au café ou au chocolat. Facile à tenir et à enfourner dans la bouche. Il se mange effectivement comme un...
Éclair,
tout à fait, bravo. Un point pour Elvira et Xavier. Question pour Antoine, qui joue avec Sophie.
Bonjour.
Ça va Sophie ?
Très bien.
Alors, présentez-vous.
Alors, moi je m'occupe de développement de marques pour enfants, et notamment le petit ours Paddington.
Génial.
Voilà.
On aime le petit ours Paddington. Il y a des enfants dans le public, je crois qu'ils y sont pas insensibles. Et vous avez aussi un rapport à la gastronomie, vous adorez ça, vous aimez manger ?
Tout à fait.
Cuisiner ?
Cuisiner également, mais j'aime surtout le vin.
Oui,
et
au point de faire votre propre vin.
Exactement, j'ai eu la chance, grâce à des amis qui sont la famille Carroget,
oui.
Qui ont le domaine de la paonnerie, de faire l'an dernier le vin qui s'appelle Mabiche,
oui.
En hommage à Louis de Funès, parce que c'était les terres de Louis de Funès. Donc voilà, un cabernet qu'on pourra goûter après.
Mais
ça
même,
se marie
mais
bien
même,
avec
l'ours. Mais même pendant...
Antoine... Ça se marie bien avec l'ours.
Ça se marie pas mal avec l'ours, mais plutôt en cuisson lente.
Il veut bouffer Paddington, non. Antoine Gerbel, vous êtes bien tombé avec Sophie.
Ah oui.
Il y aura peut-être, qui sait, des questions vin dans le grand quiz dont on va déguster. Vous êtes prêts pour la première question sucrée ?
Oui.
Quel fruit sec broyé faut-il ajouter au chocolat pour obtenir du gianduja ?
De la noisette ?
Bravo !
La meilleure.
Et ouais. Des noisettes. Vous n'avez pas ce point si... Non, je plaisante, vous avez votre point. Spécialité de quelle région italienne, s'il vous plaît ? De quelle province ? Le gianduja.
Piémont.
Bravo, bravo Antoine Gerbel. Dans un instant, je vous lance le défi d'une dégustation à l'aveugle. Vous aurez les yeux bandés. Vous allez devoir reconnaître un produit du terroir français, donc par principe à l'aveugle. Mais attention, juste avant, la possibilité pour vous tous, nos trois équipes, de récolter un point de plus sur cette question blind test musical que nous propose notre programmateur Djoubaka. Question de rapidité, vous avez une petite sonnette, testez-la devant vous. Elle n'est pas tombée en panne, c'est parfait. Donc vous n'avez pas d'excuses et vous l'utilisez pour cette question blind test musicale, question de rapidité. Attention, quel est... On appuie bien sur le buzzer. Quel est l'interprète de cette chanson ?
Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as pleuré.
Linda Lemay ?
Non, vous n'avez plus le droit de jouer, Antoine et Sophie.
T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite.
Elle est par ailleurs actrice.
Oublie-le vite. Oublie ce type. Viens.
Ah, vous l'avez pas ?
La forêt ?
Non, pas la forêt.
Je pense que c'est plus vieux que ça. C'est Maga, celle qui chantait. C'est l'époque de Vian. C'est l'époque de Boris Vian. Non,
ah. Non, c'est plus récent.
Non, on est obligé de laisser tomber.
Carlos.
Non. On se retrouve pour le blind test dans un instant.
Tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie-le vite. Oublie ce type. Viens. Goûte mes frites. Si drôle, t'en souviens-tu? Avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens. Mes frites.
Quiz dont on va déguster à l'occasion de la sortie de la boîte à quiz dont on va déguster 1000 questions pour remporter le gourmet d'or. Ouais, et là ce sont nos chroniqueurs avec des auditeurs ou des auditrices qui jouent. Il y a trois équipes, Dominique Hutin et Nathalie, Elvira Masson et Xavier, Antoine Gerbel et Sophie, vous avez les yeux bandés. Bon, vous l'aviez pas l'interprète, c'est ballot quand même l'interprète de cette chanson, Goûte mes frites 1996. Je disais qu'elle était aussi actrice. Non, vous l'avez toujours pas.
Baliba. Si, on l'a maintenant.
Ah, ben on va quand même donner, il y a quelqu'un dans le public qui a levé la main immédiatement. Bonjour, vous appelez comment ?
Bonjour, je suis Émilie et il s'agissait de Valérie Lemercier.
Bravo, bravo. Bravo Émilie. Je suis d'accord avec Elvira, la voix de Valérie Lemercier n'est pas super identifiable. On est assez d'accord avec ça. Je le disais, vous avez les yeux bandés et c'est pour goûter quelque chose du terroir français. Voilà un premier indice qui va beaucoup vous, qui va beaucoup vous aider. Essayez de tâtonner un peu avec les mains. Vous avez une assiette avec un morceau. On va vous dire que c'est d'abord du fromage. Vous le goûtez une première fois. Allez-y.
Mais c'est où ?
Vous le trouvez. Voilà. Encore sur votre gauche, elle dira. Sur votre gauche. Vous en goûtez un premier morceau. Alors, il ne s'agit pas d'identifier ce fromage, mais ça va être quelque chose de plus compliqué. Est-ce que vous l'avez, ce fromage, en bouche ?
Oui.
Sophie.
Oui, tout à fait.
Sophie, mmh. Alors
c'est très bon.
Mais vous pouvez dire ce que c'est parce que c'est pas la réponse à la question.
C'est de la vache.
Oui. Est-ce que quelqu'un se lance sur l'ident?
Un comté, non.
Qui a dit comté?
Un comté, ouais.
Xavier.
Bravo, Xavier. C'est un comté.
Jeune, alors.
Un comté jeune,
alors,
ouais.
Jeune.
Justement, laissez-moi poser la question, vous avez 15 secondes. Vous avez les yeux bandés, un papier devant vous avec un feutre. Lorsque vous avez la réponse, attention, il y a un temps imparti de 15 secondes, vous écrivez la réponse à la question que je vous pose tout de suite. C'est donc du comté, mais vous avez 15 secondes pour deviner son âge. Est-ce un comté? Là, par contre, attention de vous consulter très discrètement pour pas faire profiter de la réponse à vos voisins.
On fait les bandeaux.
On peut enlever les bandeaux, du coup.
Là, vous pouvez effectivement enlever les bandeaux. Est-ce que la couleur va vous influencer? Allez, enlevez vos bandeaux. Est-ce un comté de, écoutez bien, 16 mois, 24 mois ou 30 mois? Est-ce un comté de 16 mois, 24 mois ou 30 mois? Vous avez 15 secondes. Je relève les copies dans 15 secondes. Petit minuteur. Notez votre réponse, s'il vous plaît. 16, 24 ou 30 mois et vous me montrez vos réponses. Alors, vous m'avez dit... Ça, c'est Dominique et
oui,
Nathalie.
C'est un 1 et un 6, ça fait 16.
16, d'accord. 16 mois pour Elvira et Xavier. 16 mois... pour Antoine et Sophie.
Et on s'est tous plantés.
Et vous êtes tous plantés.
C'était quoi?
Vous êtes 24.
C'était 24.
24.
On a hésité.
Ça monte pas dans les 30, mais c'est effectivement.
Très frais pour un 24.
C'est effectivement un 24 mois. On a un problème avec le coup de cœur d'Antoine Gerbel, c'est que je pense que l'accord entre ce comté de 24 mois et son coup de cœur à boire, ça va pas forcément le faire.
On va déguster. Sur France Inter.
Antoine Gerbel, vous êtes arrivé avec une cuvée surprise?
Oui, et pourquoi pas un bon accord? Ça va être un bon accord. Alors dans les questions, mais pourquoi la ligoté est-il toujours aussi mal aimé? Donc souvenez-vous, cet apéritif giscardien arrosé de kir, c'est à peu près comme mettre du ketchup sur une belle viande maturée. La ligoté aujourd'hui prend ses lettres de noblesse. On en a déjà parlé ici. Il y a un groupement très sympathique qui s'appelle les Aligoteurs, clin d'œil, qui regroupe une trentaine de vignerons bourguignons. Et dans cette trentaine de vignerons bourguignons, il y a de tout. Des stars très connues pour leur Meursault ou leur Nuit Saint-Georges. Et ils ont tous, plus ou moins familialement, des petits territoires d'Aligoté. Et ben, ce petit territoire d'Aligoté, aujourd'hui, ils en font des grands vins. Des vins, on va dire, un peu en décalage par rapport au traditionnel chardonnay bourguignon, assez gras, assez mielé, assez généreux. Là, c'est plutôt la parole au terroir. Parce que quand vous êtes du côté de Chablis, dans l'Yonne, il y a de l'Aligoté sur du calcaire qui donne quelque chose de très crispy, comme disent les Anglais, citronné, craquant, croquant. Vous descendez dans la côte de Beaune, là vous avez des argilo-calcaires qui donnent des choses beaucoup plus rondes, beaucoup plus gras. Et quand vous descendez dans le Mâconnais, vous prenez encore plus de richesse avec les argiles. Et cet Aligoté est un vrai buvard à terroir. C'est ça qui est intéressant. Alors j'en profite pour vous parler d'un coup de cœur, mon béguin pour une beginner, parce que c'est une toute jeune vigneronne. Elle s'appelle Marthe...
Il parle beaucoup anglais aujourd'hui.
Elle s'appelle franglais à fond, oui. Marthe-Henri Boyau. Alors Marthe-Henri Boyau, chez les blogueurs, on la connaît peut-être un peu, puisqu'elle avait monté un très joli blog qui s'appelle L'Actu du Vin.
Ouais.
Alors, elle est journaliste de formation, diplômée du CFJ, et puis elle s'est très vite sentie attirée par l'atavisme de la vigne, puisque son grand-père, Pierre Boyau, était un grand vigneron de Meursault. Les vignes sont un peu dispersées dans la famille, elle n'en a plus directement à elle, elle va en récupérer parce qu'il y a des fermages un peu à droite à gauche, mais elle s'est dit, ma passion c'est le vin. Elle rentre à 31 ans en 2017 au CFPPA, formation, à Beaune, et elle va se former tranquillement, sa passion, elle se rend compte, c'est pas tellement le vin, c'est la vigne. Et je vous amène dans votre verre son premier Aligoté, millésime 2017. Donc c'est un achat de raisin, puisqu'elle a pas encore son vignoble va arriver progressivement dans les années 2020. Et elle a déjà tout mis en place. Je suis bluffé par la qualité de la franchise de ce vin. Vous savez, dans les premières vinifications, il y a souvent l'ego de l'homme ou de la femme qui parle. C'est-à-dire, je veux un peu intervenir, je veux montrer comment j'utilise le bois, je veux montrer. Elle, c'est tout l'inverse. Elle veut surtout montrer ses raisins, montrer la qualité de ses raisins. Donc, on a ce côté très citronné.
Ah oui.
Vous savez, quand on croque en ce moment les citrons de menton qui arrivent, là, les premiers un petit peu mordants. Et puis, c'est long, ça a du volume, ça n'a pas besoin de beaucoup de bois pour s'exprimer. Voilà. Et avec le comté, François Agis, comment ça?
Quelle vivacité. Mais j'ai pas de comté, moi, malheureusement. J'en ai pas goûté. Je me suis contenté de le découper. Mais finalement, c'est pas si dramatique que ça, non?
Ben non, non. Et voilà.
Le alors, gras du comté.
J'ai une autre bouteille à côté. Elle fait aussi un Meursault puisque c'est son village. Elle est originaire de Meursault. Sa cave est à Meursault. Ça coûte un petit peu plus cher. Son aligotée coûte une quinzaine d'euros.
Bien.
C'est quand même le prix enfin, d'un lance.
Ça reste assez honnête. Encore une fois, toujours oui, rapporté au travail
aussi,
de la vigneronne.
Il faut imaginer les gens qui se lancent aussi. Il faut
bien
payer.
Sûr.
Il y a des vignerons qui ont leur vigne depuis trois générations. Vous ne payez pas la vigne. Eux, ils achètent leurs raisins. Il faut un peu aussi mettre un tout petit peu plus d'argent. Voilà. Marthe Henri Boyau, elle ouvre sa cave l'année prochaine parce qu'elle tient beaucoup à recevoir les particuliers. Parce qu'elle dit qu'il y a un lien qui s'est perdu en Bourgogne entre tous ces domaines qui sont un peu stars et qui vivent un peu hors sol à l'international. Elle dit, moi je recevrai aussi des gens à Meursault. Une double bonne nouvelle.
Bravo Antoine Gerbel. Qui a goûté ce coup de cœur? Vous avez goûté Sophie, vous qui aimez le vin et qui en fait même...
Oui, alors je trouve délicieux, il va très très bien avec le comté en fait, parce qu'effectivement
ben voilà,
le gras du comté se marie très très bien.
Avec... C'est un hommage aussi à une autre spécialité bourguignonne avec le persillé par exemple, ça fonctionne très bien,
ouais.
Qui rentre dans la composition du persillé d'ailleurs.
Vous aimez Dominique ce que vous avez dans votre verre?
Il est presque vide.
Oui, je vois ça. on va vous remettre un petit coup, vous allez peut-être du coup être performant pour les questions qui arrivent et qui portent justement sur les boissons. Attention, c'est la rubrique Bois sans soif. Alors oui, on est à la radio, sur France Inter, radio publique, avec modération évidemment. Dominique et Nathalie, on commence avec vous. Une question boisson. Êtes-vous prêts? Là, toujours, même vous avez compris la règle du jeu, 30 secondes. Mais vous avez le droit de donner autant de réponses que vous le voulez. Quel célèbre écrivain a baptisé sa fille Margot en l'honneur du grand vin de Bordeaux qu'est le château Margot?
Kaufmann?
Non. Indice, il est américain.
C'est le flûte. C'est le dandy américain.
Des écrivains américains. Qui a baptisé sa fille Margot en l'honneur de Château Margot.
Et oui. On en a parlé dans une émission via une chronique d'Elvira Masson ici présente. Il y a peu, c'est un dandy.
Ah, oh, c'est ballot.
Il manque juste le nom. Un demi-point ou.
C'est. Alors,
moi je veux bien récupérer la question.
Vous récupérez pas un point, mais vous l'avez peut-être, Elvira.
Hemingway.
Bravo. Bravo. Ah là là, c'est ballot.
C'est une double erreur parce que en fait j'ai fait une chronique avec Hemingway en citant cette anecdote là.
La mémoire de Dominique.
Donc, arrêtez Kiflange, les boissons alcoolisées, voyez où ça mène.
C'est ça, exactement. Mais malheureusement, vous n'avez pas décollé. Vous êtes toujours à zéro. Bon, Elvira, Xavier, à vous. Attention. Que signifie la mention blanc? De blanc sur une bouteille de champagne.
On peut récupérer.
100% de cépage chardonnay. 100% de...
Bah, c'est une question d'affaires. Ah, est-ce qu'on la donne, la réponse?
C'est 100% de cépage, par contre.
Indirectement, c'est ça, non?
Oui,
mais... En fait, intraitable.
Pas que chardonnay.
Ouais.
Il y a la couleur.
Oui, il est blanc.
Ouais. Oui, c'est ça, des cépages.
Blanc.
Ouais, vous l'avez. Pardon. Vous l'avez. Chichi.
Merci.
Non, mais ils sont trois dans l'équipe.
Signifie blanc de blanc, signifie qu'il y a que du raisin blanc dans la bouteille. C'est bien ça, Antoine?
Oui, c'est ça, parce que on connaît Chardonnay, parce que c'est la Champagne qui a fait connaître cette appellation blanc de blanc, avec un S derrière le second blanc. Mais
c'est ça.
Ça peut être n'importe quel raisin blanc, on peut mettre ça sur l'étiquette.
Exactement.
Parce qu'on peut faire du vin blanc avec du raisin noir.
Et blanc de noir.
Exactement.
Blanc de noir.
C'est ça?
C'est un vin blanc issu de raisin noir, puisque c'est la peau qui est colorante, donc on presse, on écarte jus et peau pour éviter que les jus ne se colorent.
C'est vraiment dommage qu'elle soit pas tombée sur vous. Cette question, c'est formidable. Antoine et Sophie, à votre tour. Attention, il va pas être question de vin. Ben non, on est quand même pas si... Dans quel pays pousse le rooibos, également surnommé thé rouge, bien qu'il ne contienne pas de théine? Le thé rouge, rooibos, son pays d'origine, s'il vous plaît. Vous avez le droit de faire défiler les réponses. Profitez-en. Vous avez 30 secondes.
Sri Lanka?
Non.
Le Loir-et-Cher?
Ceux qui l'ont dans le public.
Égypte.
Afrique du Nord. Elvira, la réponse, évidemment, elle en boit 2 litres par jour. Mais Elvira, vous n'aurez plus cette réponse. Vous allez trop passer pour un singe savant. Vous avez toutes les questions. Alors, allez-y, n'hésitez
Inde.
Pas.
Inde.
Non, n'hésitez pas. Vous ne l'avez pas, quelqu'un là dans le public. Vous appelez comment, madame?
Alexandra.
Bonjour, Alexandra.
Bonjour.
Alors, l'origine du rooibos?
Afrique du Sud.
Bravo.
Ah ouais.
Nous en arrivons aux fameuses questions pourquoi avec...
Ce jeu est donc entièrement truqué.
On peut le dire.
Avec notre coach culinaire Arthur Lequen. Nous sommes en compagnie d'Arthur Lequen et nous avons puisé dans son livre une question chacun, une question par binôme, une question pourquoi, puisqu'encore une fois c'est vraiment le principe de votre livre. Hein. Oui. Toutes les questions, les 700 questions commencent par des pourquoi.
Absolument, en fait, on remet en cause plein de choses et on apprend pourquoi c'est intéressant de saler des viandes la veille et jamais au moment, enfin... Tout est basé aussi sur des faits scientifiques. Ça, c'est très important.
Exactement. Eh bien, on va commencer avec une question pour Dominique et Nathalie. Et je pose la question. C'est Arthur qui arbitre et qui donnera la réponse. Il y a un certain niveau de précision attendu. Pourquoi mange-t-on surtout des plats pimentés dans les pays chauds? Vous avez 30 secondes.
C'est une bonne question. Parce que le piment, il pousse, peut-être. Oui. Un demi-point, déjà. Ça, c'est bien.
Bah, il pousse à Espelette aussi.
Il y a une raison précise. Pourquoi mange-t-on des plats pimentés, surtout dans... Pourquoi mange-t-on des plats pimentés dans les pays chauds?
Donc.
Moi, je dirais, par rapport à l'évacuation de la chaleur, comme on boit aussi des boissons chaudes dans le désert, pour équilibrer la température.
Au contraire, est-ce que ça ralentit la sudation?
Non. Non, ça augmente la sudation, le piment.
Ça augmente, c'est ce que je voulais dire. Ça augmente la sudation.
C'est ce que j'avais compris aussi.
Alors?
Donc ça augmente la sudation, c'est sud. Ça a à voir avec le métabolisme, on peut imaginer.
Pas vraiment.
Pas vraiment. Ça va donc avec la manière de...
De conserver des choses aussi.
Le
piment va contrecarrer les bactéries ou les virus qui peuvent se contenir dans la nourriture.
Merci.
Voilà.
J'ai entendu bactéries, j'ai entendu virus, on est vraiment dans cette réponse-là.
En fait, le piment sert à tuer les bactéries et c'est aussi un antiseptique. Donc c'était une façon de conserver les aliments.
Et notamment les viandes, pour éviter qu'effectivement elles soient contaminées ou qu'elles soient impropres à la consommation.
Absolument.
Donc le piment faisait office d'agent de conservation.
Hein. Et ça avait un second avantage, c'est-à-dire que quand le plat était très pimenté, on sentait moins si la viande avait été un peu abîmée.
Un point pour Xavier et Nathalie, un point pour Dominique et Nathalie, bravo. Elvira et Xavier, c'est à vous. Une question pourquoi. Pourquoi y a-t-il des trous dans les mentales? Pourquoi y a-t-il des trous dans les mentales? Allez-y, commencez à poser des questions.
Ça vient d'une fermentation, j'imagine, d'alvéoles.
Vous êtes sur la voie,
comme dans le pain, quoi.
Xavier.
C'est un bon départ. Mais
c'est un bon départ. Hein. Donc, je sais qu'il y a une différence entre le suisse et le français par rapport à ça également.
C'est ça.
Parce que ça tue les bactéries.
Mais la fermentation, alors, pourquoi y a-t-il des trous? La fermentation.
Il fermente plus longtemps, peut-être.
Oui, mais expliquez. Non, l'idée, c'est juste, sans comparer avec d'autres fromages, car on sait, contrairement à ce que l'on pense, qu'il n'y a pas dans le gruyère, par exemple, de trous. C'est dans l'emmental qu'il y en a. Et c'est le résultat de la fermentation. Mais développez votre réponse, l'explication.
La fermentation lactose,
de celle qui.
Ouais, c'est.
Il balance tous les mots qu'on sait qu'il connaît.
À la louche, c'est ça.
Arthur, est-ce qu'on peut leur donner?
Non, on ne leur donne pas.
À quoi correspondent ces trous?
En fait, au moment de la traite, il y a des corpuscules sur d'infimes morceaux de foin qui tombent dans le lait. Et pendant la préparation du fromage, ces corpuscules émettent du gaz carbonique, fermentent, émettent du gaz carbonique et fait des trous dans la meule.
Maintenant, s'il faut dire corpuscule dans nos réponses,
tu la mets sur le bout de la langue.
On aurait accepté une bulle de gaz carbonique, d'accord. Le fait que ça fermente et que ça crée effectivement un gaz. Antoine et Sophie, troisième pourquoi. Pourquoi les œufs sont-ils ovales et pas ronds?
C'est assez sexuel comme réponse, hein. Je sais pas. Il y a des enfants dans la salle.
C'est un peu bizarre.
N'hésitez pas à nous proposer une
forme de la matrice.
C'est joliment dit. J'aime bien la forme de la matrice
de l'œuf.
Non.
Pourquoi est-il ovale? Par quel mystère devient-il ovale quand il est fondu par la poule?
Ça se range mieux dans les boîtes.
Le fait de sortir, en fait, c'est que d'abord ça s'allonge, puis ça se. Enfin, C'est plus dans la morphologie de la poule qui fait que l'œuf s'allonge et devient ovale, en fait.
Bah, ouais. Là. On donne le point.
Là, on donne le point. Bravo.
Alors, en fait, pour avoir deux minutes aussi pour répondre, nous.
En fait, l'œuf, ça commence par le jaune. Ensuite, quand il descend, il y a le blanc qui se met autour. Et ensuite, la coquille. Mais il est rond pour que ça circule le plus facilement possible dans le corps de la poule. Sauf que le rond est tellement gros que la poule ne pourra pas l'extraire. Et donc, elle a des mouvements de contraction qui vont aplatir l'œuf et lui donner une forme ovale pour qu'il puisse sortir par le cloaque plus facilement.
Ils sont bons, Antoine et Sophie, ils sont donc à combien de points ?
600.
2 points pour Elvira et Xavier.
2
points. Et 1 point pour Dominique et Nathalie. Tout est encore jouable et possible. Un petit coup de cœur d'Elvira, une chose à déguster.
On va déguster. Sur France Inter.
On va saliver avec vous, Elvie.
Bah avant d'être une chose à déguster, c'est un livre qui m'a complètement emporté. C'est plus qu'un livre, c'est un voyage magnifique et passionnant auquel nous invite Caroline Eden. Mm-hmm. Elle est journaliste britannique, spécialiste de l'Union soviétique, enfin de l'ex-Union soviétique. Elle a publié un livre chez Hachette Cuisine sous le titre Black Sea, un voyage culinaire entre Orient et Occident. Elle nous raconte dans ce qui est beaucoup plus qu'un livre de recettes, d'ailleurs il ne contient que 60 recettes sur 280 pages, le voyage qui l'a le plus marqué de sa vie, c'est celui qu'elle a entrepris au bord de la mer Noire, et plus précisément, elle inscrit son périple entre deux des villes les plus emblématiques de la région, Odessa, au sud de l'Ukraine, la bordure slave de l'ancienne Union soviétique, et sa cuisine influencée par les traditions juives et italiennes, et par son langage fait de russe, matiné de yiddish, et de l'autre côté de la mer, Trabzon, au nord-est de la Turquie, en Anatolie, l'ancienne Trébizonde, qui était ce comptoir commercial grec fondé au 7e siècle avant notre ère. Et la troisième ville clé est évidemment Istanbul, qui ne se trouve pas directement sur les rives de la mer Noire, mais qui est reliée par le Bosphore, et qui est peut-être, selon elle, la ville la plus passionnante au monde en termes culinaires. En tout cas, peut-être la ville la plus cosmopolite au monde. Alors, on passe avec son auteur de ville en village, en hameau, toujours au fil de la mer Noire. J'ai presque du mal à vous dire le bien que j'ai pensé de ce livre. Je pense qu'il faudrait vraiment une émission entière.
Déjà, le premier mérite, c'est qu'il porte un éclairage sur une espèce de terra incognita.
Complètement. On ne sait pas ce qu'on mange à Odessa, on ne sait pas ce qu'on mange à Trébizonde. Elle m'a complètement happée, cette mer Noire. Les rencontres que fait Caroline Eden au gré des marchés, les poissons frits, le forchmak d'Odessa, ce pâté de hareng haché à la pomme et à la crème aigre, la synagogue des vendeurs de citrons, la polenta du matin en Roumanie, la saison des anchois à Istanbul. C'est foisonnant et romanesque comme les eaux profondes de la mer Noire. J'ai tellement envie de le faire, ce voyage. J'ai envie de repartir sur les traces de son auteur et ce livre sera mon guide. En attendant, je vous ai préparé un petit avant-goût. Il nous vient de Kastamonu, en Turquie. Oui. L'été, à Kastamonu, on mange des glaces. Et l'hiver, on mange cette petite friandise. C'est du potiron ou de la courge butternut confite au sucre.
C'est votre coéquipier, Xavier, qui va s'y prêter, qui va goûter. Il y a donc...
je ne vais pas préparer d'assiette.
Alors, il y a deux petits récipients avec les doigts.
Deux petits ramequins. D'accord. Avec des carrés de courge butternut qui ont d'abord été confits au citron et au sucre pendant une nuit, que j'ai ensuite cuit au four à relativement basse température pendant une heure et qui se mange avec une crème turque qui s'appelle le keymak que je n'ai pas trouvé. Et donc j'ai fait un mélange de yaourt grec et de labné libanais mêlé de tahine avec des cerneaux de noix. Et ça se mange ensemble. Donc la crème
doux,
un peu aigre.
C'est câlin, doux, et effectivement voir la fraîcheur après du...
Ils font partie de la même équipe, il va pas dire que c'est mauvais.
On a un point, s'il aime, on a un point ou pas.
On prend les points, quoi. Non, moi, je me suis permis de tremper les doigts juste avant. Ce que j'aime beaucoup, c'est la texture du butternut. On est vraiment dans...
C'est confit, c'est presque une pâte de fruits.
Oui, j'allais dire ça, presque une pâte de coin.
Tout à fait, et croquant à la fois.
Oui. Assez ferme.
Et j'aime bien le tahine avec le sucre de cette courge qui est donc évidemment hyper sucrée.
Comment vous l'appelez cette recette ?
Elle n'a pas vraiment de nom. Enfin, elle l'a baptisée douceur du coucher à la crème de tahine. Mais je pense qu'elle n'a pas forcément le nom turc d'origine.
Câlin du soir. Oui, c'est ça. Gros
mais
câlin.
Vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point je suis sous le charme de ce livre. C'est une merveille ce livre.
Vous nous en rappelez les références ?
Black Sea, un voyage culinaire entre Orient et Occident, de Caroline Eden chez Hachette Cuisine.
Parfait, les références de votre livre, ainsi que la recette que vous avez fait goûter à votre coéquipier Xavier, est en ligne sur franceinter.fr. À la page, on va déguster dans un instant, nouvelle dégustation à l'aveugle d'un autre produit du terroir français. Mais juste avant, attention à nouveau, concentrez-vous et ouvrez vos écoutilles. Un nouveau blind test musical. Quel est Là, c'est une question de rapidité. Vous êtes au courant et vous avez vos sonnettes sous les yeux. Quel est l'interprète de cette chanson très comestible ?
Ma gueule loves
l'interprète.
Cheesecake. Oh, cheesecake, munching on the cheesecake.
Louis Armstrong.
Bravo, Edgar Masson. Louis Armstrong, on se retrouve dans un instant. Bonne journée sur France Inter.
Cheesecake. Cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, munching on the cheesecake, munching on the cheesecake. Cheesecake. Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. A cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake. A cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake. My girl, she's crazy over cheesecake all the time. So I bring up cheesecake, and she treats me mighty fine. Da-da-da-da-da, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Ba-da-ba-da, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. A cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake. A cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake.
Alors, on est de retour sur le plateau dont on va déguster pour le grand quiz. Je rappelle que nous avons trois équipes pour remporter le gourmet d'or. Il y a tout d'abord, il y a d'abord Dominique et Nathalie. Vous êtes à un point.
Déjà,
Elvira et Xavier, 3 points. Bravo. Et Antoine Gerbel et Sophie, vous êtes à 2 points. Ça reste quand même assez serré. Notre coach culinaire qui est à ma droite, c'est Arthur Lecan, auteur de « Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas ?»« Pourquoi boire de l'eau ne diminue pas le piquant des piments ?» Tiens, justement, au contraire, ça pourrait même enflammer le palais.
Absolument, parce que les neurones captent la force du piment,
oui,
et ne se nettoient pas du tout avec de l'eau. Il faut au contraire prendre un yaourt, quelque chose d'acide, ou même de la salade.
Il paraît que ça marche très bien avec un grand verre de rhum cul sec.
Je suis pas tout à fait sûr.
Ah bon, d'accord.
Non.
Alors, vous êtes prêts? Vous avez les yeux bandés, évidemment. Il y a un deuxième produit à déguster. Il est devant vous. Ça fait du bruit. Vous avez 15 secondes pour identifier ce que vous avez en bouche. C'est pas du tout une question de rapidité, hein. Vous devez écrire la réponse sur le papier devant vous. 15 secondes.
Enlever le bandeau ?
Vous pouvez enlever le bandeau. Oui. Si vous avez, oui. Alors, vos réponses, s'il vous plaît. Vous les écrivez, hein. Impérativement. Non mais attendez, c'était aussi facile que ça. Alors, Antoine et Sophie nous répondent.
Bergamote.
Ah, c'est pas mal, mais non, vous la complétez ? Sophie, Antoine, bergamote d'une ville en particulier ?
Ah, je sais pas.
De Bergame.
Elvira et Xavier.
Bergamote de Nancy.
Bergamote de Nancy, mais je crois qu'on va quand même accorder bergamote, évidemment.
Non, accordez-leur un demi-point.
Dominique et Nathalie, bergamote de Nancy, bravo, un point de plus pour tout le monde, ça fait donc 2, 4 et 3, c'est pas mal du tout. Attention, dorénavant, vous êtes assez bon quand même, hein. Ce goût de bergamote, hein, cette agrume assez caractéristique qu'on trouve également évidemment dans le thé nommé
Earl Grey.
Earl Grey, tout à fait. Attention, on entre dans une autre phase de jeu. Les questions se font désormais à la rapidité. Vous avez votre buzzer.
Ouais, moi j'ai fait,
le premier qui trouve appuie sur la sonnette. On commence avec une série de questions. Globe Crocker. En Turquie et en Grèce, comment appelle-t-on la pâte découpée en feuilles très fines?
Philo.
Elvira, Philo. Bravo, Elvira et Xavier. La pâte philo, du grec philon, feuille, cette pâte composée de farine, d'eau et d'amidon de maïs qu'on utilise en Grèce et en Turquie pour des préparations sucrées et salées et qui a d'ailleurs un lien de parenté avec, au Maghreb, la feuille de...
Brique.
Bravo. Attention, toujours question de rapidité. Question toujours exotique. Quel mélange d'épices a donné son nom à un ragoût de viande ou de poisson emblématique de la cuisine antillaise?
Colombo. Colombo.
Elvira, Colombo. Bravo. C'est aussi la capitale du Sri Lanka, effectivement, le Colombo, les épices qui composent ce mélange d'ailleurs de couleur jaune et qui parfument des ragoûts de viande ou de poisson. On retrouve quel genre d'épices, allez-vous m'en citer, dans le Colombo, ce mélange d'épices antillais?
Curcuma.
Ouais.
Curry, cumin.
Oui.
Ah, c'est à vous maintenant, hein. C'est pas le tout.
Quatre épices.
Non, pas quatre épices.
Il y a coriandre.
Il y a coriandre, très bien. Clou de girofle, cumin, poivre. Après, évidemment, chaque famille et chaque chef a sa recette. Arthur?
Oui, le clou de girofle était aussi un antibactérien. Et c'est pour ça qu'on en mettait dans les pots au feu.
Dans les dents.
Chez le dentiste. Oui, chez le dentiste, absolument.
Chez le dentiste, tout à fait. Attention, troisième question, Globe Crocker. Comment appelle-t-on le salami épicé qui garnit très souvent les pizzas aux États-Unis, Sophie?
Pepperoni.
Bravo, pepperoni. Un point pour Antoine et Sophie. Un petit blind test cinéma. On va diffuser une scène d'un film. À vous de reconnaître le nom du comédien qui interprète cette scène. Question de rapidité, on utilise le buzzer, c'est parti. Attention, une seule bonne réponse, hein.
Je trouve que le craquement de la biscotte.
Bernard Blier.
Bravo.
Vide.
Ah, ah, ah.
Non.
C'est un coup
de... Il a dit Bernard Blier, j'ai pas rêvé. C'est Bernard Blier. Oui, Bernard Blier. Excusez-moi, bien sûr. Oui, oui, Bernard Blier. Pardon,
je me suis trompé. C'est Bernard Blier.
Désolé, non, c'est bien ça, Bernard Blier.
Et pas Bertrand.
Oui, bien sûr. Un point de plus pour Antoine Gerbel et Sophie. Ça commence à être très compétitif entre les deux équipes, là. C'est... Attention. Quel est le plus petit œuf d'oiseau comestible?
La caille.
Bravo. Nathalie.
Vous êtes un peu familier avec François.
Nathalie et Dominique, absolument.
La remontada.
L'œuf de caille. Est-ce que vous sauriez me donner le poids d'un œuf de caille?
Absolument.
En grammes?
Environ.
Oui.
7 grammes. 5.
On n'est pas loin. On est à 10 grammes. Contre 65 grammes en moyenne pour un œuf de poule. Et c'est le plus petit œuf d'oiseau comestible, absolument. L'œuf de caille, vous aviez raison, Nathalie. Attention, une question encore de rapidité. Laquelle de ces salades n'est pas une laitue? La romaine, la batavia ou la frisée? Sophie.
La frisée.
Bravo. Bravo Sophie. Pourquoi?
Alors, frisée, je ne sais pas.
Alors la frisée n'est pas une laitue. Elle fait partie de la famille des chicorées, comme l'ascarole et le marqueur gustatif des chicorées, évidemment, comme la frisée, c'est l'amertume. Un petit coup de cœur de Dominique Hutin. Hein? Vous êtes prêts ou pas?
Sur France Inter.
Dominique.
Oui.
Il y a quand même de la bouteille et du livre.
Oui, quand même. Écoutez, à l'approche des fêtes et donc des cadeaux qui vont avec, je vais vous parler pages. Je vais vous parler cépages. Évidemment, je vais vous parler de vin et je vais vous parler de livres en même temps. Alors, côté vin, c'est relativement simple parce que le millésime 2019 est encore en gestation dans les fûts, dans les caves, dans les cuves, etc. Par contre, côté libraire, les rayonnages sont riches de 8 livres. 8 livres qui portent exactement tous sur le même sujet, qui est un des marqueurs de l'époque, c'est le vin dit naturel. Alors vous allez trouver des bréviaires, vous allez trouver des manifestes, ou plus classiquement, des guides qui sont des espèces de répertoires du bien boire. Et le dernier né de ces livres-là s'appelle « Raisin sans grand vin naturel d'émotion ». Et il est très particulier dans le sens où Raisin, c'est avant tout une application pour smartphone de géolocalisation qui vous permet de trouver à New York, à trifouiller les oies ou dans le désert, le caviste de vin naturel, le bar à vin de vin naturel le plus proche, etc. Et donc, moi je suis un geek un petit peu préhistorique, et il y a 40 ans, on nous sonnait déjà les oreilles en disant « Ouh là là, grosse malheur, le numérique, l'informatique, tout ça, ça va signer la mort du livre papier. » Et bien là, renversement, c'est l'application qui va alimenter cette grande histoire du livre. Et tout ça, ça entre en résonance avec une autre actualité, c'est que les libraires se sont fédérés, ils se sont fédérés pour assurer leur présence sur Internet. Il y a des entités comme par exemple lalibrairie.com, peut-être que vous connaissez, Place des libraires, etc. Et dans le même sens, les vignerons dits naturels, eux aussi viennent de créer, exactement au même moment, un syndicat de défense des vins naturels. Ça veut dire que et libraires et vignerons trouvent du sens à faire nombre pour penser l'avenir de leurs filières respectives. Alors, du livre au litre, évidemment, il n'y a qu'un pas, il nous reste une question. Qu'est-ce que l'on boit pour évoquer ces pages qui parlent de ces pages? Eh bien, j'ai compté tout à l'heure, 8 livres, ça fait 2000 pages. Ça fait un sacré millefeuille. Donc du coup, on est obligé de se tourner vers une géologie, un vin qui serait poussé sur une espèce de terroir de millefeuille, justement. Ce sont les schistes que vous trouvez, par exemple, vers Roquebrune, qui est dans le Languedoc. Et là, j'ai une cuvée qui illustre très bien ça s'appelle la boulette de schiste. Je laisse un petit blanc pour que vous réfléchissiez. C'est à côté de Saint-Chinian, donc je l'ai dit. Et ce vin-là, comme la vie est bien faite, vous allez pouvoir le déguster très bientôt dans un salon, c'est la semaine prochaine, qui lui s'appelle « Mi-livre, mi-raisin ». Vous me voyez arriver ? Donc c'est un salon qui va mixer les deux univers. Vous allez trouver certes des vignerons, vous allez trouver aussi des éditeurs indépendants, vous allez trouver des auteurs en dédicace. Tout ça, c'est la semaine prochaine. Et vous voyez, vraiment, les deux univers se rapprochent. Et comme on est dans une émission qui nous parle de jeux, je vais conclure par une petite question, bien sûr. Oui. C'est une question que j'adresse en direction des jeunes amateurs de vin naturel qui pensent parfois un petit peu avoir inventé le vin. C'est un phénomène relativement récent, voilà. Il y a eu des manifestations, des révoltes même, dans le Languedoc, où les manifestants brandissaient des slogans qui disaient « Rendez-nous le vin naturel ». À quelle époque ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 1907. Rendez-nous, le vin naturel. 1907.
Wow.
Donc si vous pensez avoir inventé le vin naturel il y a peu, je pense que vous devriez consulter le dernier bouquin que je vous propose qui s'appelle « L'Atlas historique du vin en France ». Ça vient de sortir chez Autrement. Bref, vous l'avez compris, vous fréquentez les cavistes, vous fréquentez les libraires, voire les deux en même temps. Il y en a qui exercent la double profession. Et j'en profite pour rappeler qu'en France, le prix du livre est fixe. Donc vous ne perdrez pas d'argent à aller acheter chez un libraire. Un, vous aurez le conseil. Et deux, vous pourrez même commander des livres. Et vous ne gagnerez rien d'autre sur Amazon que de vider les centres-villes. Voilà. Et en conclusion, en attendant qu'on produise enfin du papier avec le bois de la vigne, rien ne nous empêche de continuer à utiliser, pour noircir des pages, des stylos trois couleurs, blanc, rouge et rosé.
Très bien, merci beaucoup Dominique. Il nous reste une poignée de secondes pour vous départager. Elvira et Xavier sont en tête avec 6 points, Antoine et Sophie 5 points, Dominique et Nathalie 2 points. Attention, concentrez-vous, rapidité, quel morceau de viande ne vient pas du dos de la vache ? Le faux filet, le paleron ou le rhum steak ?
Le paleron.
Bravo Dominique, 3 points. Il existe en France deux grandes régions productrices de châtaignes. L'une est la Corse. Quelle est l'autre ?
L'Ardèche.
Elvira.
L'Ariège.
Non.
L'Ardèche.
L'Ardèche.
Oui, Antoine, c'est dommage. Oh là là, c'est vraiment dommage. 6 à 6. Dernière question pour vous départager. Attention, question de rapidité. Quelle est la couleur particulière de la moutarde de Brive?
Violette.
Bravo, Dominique et Nathalie, violette. Malheureusement, ça vous ne suit. Ah, ils sont à égalité. Vous êtes à 3 points.
Ça c'est une approche purement comptable. Dans le cœur des auditeurs, c'est notre équipe qui gagne.
Oui, c'est vrai. Comme vous êtes à égalité exceptionnellement, on en pose une dernière entre l'équipe d'Elvira et l'équipe d'Antoine. Que signifie le sigle IGP?
Indication géographique protégée.
Elvira a gagné. Elvira et Xavier ont gagné. Bravo.
Il y a plein de belles choses à gagner. Une tourte de Noël de la maison Véro. Il y a également de Edouard de d'excellents chocolats. Merci beaucoup Arthur Lequin. Il fallait que vous nous parliez aussi de Pot au feu, mais malheureusement le temps a tourné. On a été obligé de les départager.
Ah mais c'est Lira.
Ce livre vaut vraiment la peine. 700 questions impertinentes et ludiques sur la cuisine. C'est vraiment un formidable bouquin aux éditions Marabout. Ça va faire un beau cadeau de Noël, ça non?
Ben, on espère. On espère et puis qu'il ait une longue vie.
Merci beaucoup. Et puis il y a également 3 boîtes à quiz. On va déguster à gagner sur le compte Instagram de France Inter. Il suffit d'aller consulter la story de France Inter, de répondre à 3 questions et on tirera au sort 3 auditeurs parmi les bonnes réponses. Rendez-vous donc sur le compte Instagram de France Inter. À dimanche prochain si vous avez encore faim.